Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'ONU. Ban Ki-moon quittera ses fonctions de secrétaire général à la fin de l'année. La campagne de succession bat son plein depuis plusieurs semaines. Son successeur sera-t-il une femme? Quelle zone géographique sera privilégiée dans cette succession? Regard sur l'ONU, le bilan de Ban Ki-moon et les défis qui attendent le prochain secrétaire général de l'organisation. Nos invités, Alexandra Novoselov, chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance, paru dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, représentant de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007 pendant la crise irakienne, enseignant à Sciences Po et auteur de Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ambitions et limites, paru aux éditions Larcier. Bonjour.
Bonjour.
Le quotidien britannique The Economist qualifiait récemment Ban Ki-moon d'un des pires secrétaires généraux de l'ONU, estimant que son mandat, qui arrive donc à échéance à la fin de l'année, est largement perçu comme un échec en termes d'administration et de gouvernance. L'hebdomadaire déplore en particulier une organisation paralysée par la bureaucratie. Un commentaire, Alexandra Novoselov.
Je crois qu'elle n'est pas totalement dénuée de réalisme sur ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies. Je crois que l'actuel secrétaire général a été est très critiqué pour la gestion de pas mal de dossiers et puis pour la gestion de cette bureaucratie qui n'est pas nouvelle, mais où il faut imposer un certain leadership dont il a été quelque peu dénué.
Jean-Marc de la Sablière.
Tout petit peu sévère, je serais un tout petit peu moins sévère, mais quelqu'un qui est travailleur, qui cherche à bien faire, mais c'est vrai qu'il a manqué de charisme, mais je pense qu'il a manqué aussi de leadership. Il a fait quelques erreurs, mais il ne restera pas comme un grand secrétaire général.
Alors, quelques erreurs et une bourde récemment. C'est vrai que là aussi, The Economist, dans sa critique, prend appui sur les dérapages verbaux injustifiés du secrétaire général de l'ONU qui s'est départi de sa neutralité en qualifiant la présence du Maroc au Sahara d'occupation. Des propos politiquement inappropriés. Tout cela après 9 ans à la tête du secrétariat général de l'ONU. On peut s'en étonner peut-être, Alexandra Novoselov?
On devrait s'en étonner, oui, tout à fait. Et le problème, c'est qu'en plus, il a dit ça à Alger. Là, c'est une méconnaissance des tensions qui existent dans cette région-là, et notamment de la relation entre le Maroc et l'Algérie. Et donc ça, c'est ce qui lui est pas pardonné.
La neutralité, c'est une pierre angulaire pourtant de la fonction du secrétaire général de l'ONU, Jean-Marc de la Sablière.
Ah oui, le secrétaire général de l'ONU doit être effectivement, c'est un job, comme on dit aujourd'hui, extrêmement difficile. Parce que vous devez bien travailler avec les membres permanents. D'ailleurs, le secrétaire général est élu par l'Assemblée sur recommandation du Conseil de sécurité. Les membres permanents ont un veto là-dessus. Donc, deuxièmement, comme l'essentiel du travail est sur la sécurité, il a intérêt aussi donc à bien travailler avec les membres permanents. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il doit être neutre, mais il doit faire preuve de leadership. Mais s'il va trop loin, ça lui revient en boomerang. Parce que quelquefois, les membres permanents n'acceptent pas qu'on aille trop loin. Rappelez-vous des épisodes de Boutros et des Américains. Les Américains ont mis un veto à la réélection de Boutros, n'est-ce pas? Donc c'est un job qui est assez difficile. Moi, je regrette beaucoup qu'il ait fait ses erreurs sur le conflit du Sahara occidental. Mais certainement, il doit faire preuve de neutralité. Mais il doit faire preuve de leadership aussi, là, c'est sûr.
Alexandra
Novoselov. Oui, et puis je crois qu'il doit être aussi une autorité morale. Alors je pense que il voulait bien faire parce que il voulait prendre position, en tout cas aider ces oubliés du désert que sont les Sahraouis. Mais il l'a fait de manière extrêmement maladroite. Et je pense qu'il aurait dû travailler un peu plus son dossier et ses prises de position en la matière.
Alors, on l'évoquait en introduction, donc Ban Ki-moon, son mandat arrive à échéance à la fin de l'année et le processus de remplacement de Ban Ki-moon est en cours. Alors, grande première cette année, c'est vrai que l'ONU est souvent taxée de manquer de transparence. Généralement, le choix du secrétaire général se fait à huis clos, ce sont des tractations au sein du Conseil Conseil de sécurité. Cette fois-ci, l'ONU a décidé d'élargir, d'ouvrir les candidatures au poste de secrétariat général, avec donc plus de transparence, lettres de candidature, curriculum vitae, profession de foi, grand oral. Et c'est à partir du 21 juillet prochain que le Conseil de sécurité commencera le processus du vote. Est-ce que la nouveauté pour le choix du secrétaire général vous paraît opportune, d'une part, et qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, on parle beaucoup, ce que j'évoque en introduction, de la possibilité d'une femme, et puis en provenance de l'ancienne Europe de l'Est, qui est une région qui n'a jamais eu de secrétaire général. Voilà, je voudrais un commentaire de l'un et de l'autre sur cette question. Jean-Marc de la Saulière.
Vous savez, il y a deux questions dans cette affaire. Je parle de la nomination, du désignation du nouveau secrétaire général. Il y a d'une part des choses qui ne sont pas changées et qui est fondamentale, c'est que, conformément à la charte, c'est une recommandation du Conseil de sécurité à l'Assemblée, une élection par l'Assemblée. Ça veut dire que les membres permanents ont un contrôle sur la personne qui sera recommandée à l'Assemblée générale. Et ça ne change pas. Alors les modalités, c'est un peu compliqué. Il y a des votes blancs. Enfin, le Conseil de sécurité a une cuisine qui n'est pas transparente, n'est-ce pas, pour parvenir à la personne, au nom de la personne. Et deuxième question, c'est le secrétaire général. Il est le secrétaire général de tout le monde, ou la secrétaire générale. Ce sera la secrétaire générale de tout le monde. Et donc, il est légitime que cette personne soit connue. Il est légitime qu'il y ait cet échange avec l'ensemble des membres. Ça ne va pas modifier ensuite le processus. Et donc, on a introduit, ça s'est fait en deux temps, hein, parce qu'au départ, il y avait déjà eu quelque chose de moins formel pour les élections précédentes, mais là, c'est assez formalisé. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que cette transparence était nécessaire. En tous les cas, elle était revendiquée, et je trouvais légitime qu'elle le soit.
Alexandra Novoselov. Oui, je suis entièrement d'accord sur les propos de l'ambassadeur de la Sablière. Ce qu'on peut remarquer, parce qu'il y a eu maintenant depuis maintenant presque deux mois, donc les différents candidats qui se sont présentés, qui ont expliqué leur programme, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet au public, hein, puisque ces séances sont totalement publiques, de voir quelles sont ces personnes. Ce que je trouve un peu regrettable, c'est que on sent qu'il y a une espèce de c'est une campagne, hein, mais c'est une campagne qui est très politique au sens national presque du terme, et donc il y a une certaine surenchère entre les candidats sur les promesses qu'ils vont faire s'ils sont élus. Et donc je trouve que ça est un peu en décalage avec ce que doit être la personnalité, la fonction du secrétaire général.
Jean-Marc de la Sablière.
Oui, alors maintenant sur la personnalité qui pourrait être élue. Je crois que au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, d'après les informations que j'ai, c'est ouvert.
Les candidatures, d'ailleurs, sont toujours ouvertes. Hein,
on ne peut pas dire que quelqu'un est fléché, si vous voulez. C'est assez ouvert, hein, je trouve. Deuxièmement, il y a une pratique qui n'est pas une règle, qui ne figure pas dans la charte, et qui est une pratique qui a été introduite au moment de l'élection de Boutros Ghali, qui a été celle de la rotation géographique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a dit, eh bien, c'est le tour de l'Afrique. Il y a eu un accord sur ce point. Ça veut dire que tous les candidats qui n'étaient pas africains avaient eu, dans ce contexte, très peu de chance. Et ensuite, les Chinois, parce que Boutros et Kofi, comme Boutros n'a fait qu'un seul mandat, ben on a poursuivi avec Kofi Annan. Ensuite, les Chinois ont dit, c'est l'Asie. Et les Chinois en veto. Et donc, il n'y aura pas secrétaire général ce coup-ci qui ne soit pas asiatique. Et donc, ça a été un asiatique. Alors, est-ce que maintenant, il y a ce groupe qui est un peu étrange, compte tenu des évolutions géopolitiques, parce que c'est un groupe qui réunit à la fois des pays qui sont membres de l'Union européenne, c'est le groupe de l'Europe de l'Est, hein, je veux dire, et autres. Bon. Alors, est-ce que ce sera une personnalité de ce groupe? On verra, je pense que les Russes...
Je vais y venir.
Est-ce que les Russes l'exigeront ou pas? Nous verrons.
On sait qu'il a le défaut de l'exiger, en tout cas ils y sont extraordinairement favorables.
Oui, mais c'est exactement... je trouve que les expressions que vous utilisez sont extrêmement justes. Quand on dit favorable, ça ne veut pas dire exiger. Donc on verra, si vous voulez, ce qui se passera là. Et deuxièmement, il y a l'idée que ce serait mieux. Une idée générale, et que je trouve très, très, très bonne pour ma part, parce que je trouve que ce serait très utile, indépendamment du fait qu'on peut considérer que ce soit équitable et juste, mais je trouve que ce serait bien pour l'organisation que ce soit une femme. Je trouve qu'il y a un regard, n'est-ce pas, d'une personnalité responsable de haut niveau, que ce soit une femme à la tête des Nations Unies, et je trouve que c'est quelque chose qui serait bien. Alors, maintenant, on va voir comment les choses vont se passer. Je constate qu'il y a plusieurs candidatures féminines, et des candidatures féminines de qualité, et donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est ouvert, hein.
Alexandra Novoselov, sur une candidature féminine et sur le profil même du secrétaire général, ce qui est attendu notamment par les membres permanents du Conseil de sécurité, c'est tout de même une personnalité qui n'est pas un trop gros ascendant, qui ne soit pas trop indépendante. J'aimerais que voilà qu'on y voit clair sur ces deux.
Oui, bien sûr. Alors bon, que ce soit une candidature féminine, bien entendu. J'y suis bien entendu favorable, comme une très très grande majorité des gens aujourd'hui. Ensuite, sur la personnalité, c'est vrai que on dit que le P5, hein, donc les membres permanents du Conseil de sécurité, ne veulent pas quelqu'un qui soit qui ait trop de personnalité, qui s'affirme trop. En même temps, au jour d'aujourd'hui, après 10 ans de mandat de Ban Ki-moon, on a vraiment une organisation qui a besoin de leadership. Mmh. Alors, ça peut être aussi un leadership qui soit considéré comme un leadership interne. Et ça, je crois, par exemple, les Américains, ils sont vont faire très attention à ça. Donc, il faut qu'il y ait quand même que ce soit une personnalité qui ait une certaine assise, une certaine expérience des Nations Unies. Et là, les candidats venant de l'Europe de l'Est il y avait peu de candidats qui ont cette expérience-là. Donc, je crois que ça va être un critère qui va être regardé de près par certains États.
Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Marc Nassimilien?
Moi, si vous voulez, les membres permanents qui ont quand même la main dans cette affaire regardent quels sont leurs intérêts. Et les intérêts ne sont pas... C'est pas un groupe, hein, je veux dire. Chacun regarde quel est son intérêt. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réunion où on décide ensemble ce qui va se passer. C'est chacun... vote à sa et défend ses intérêts. Bon. Deuxièmement, ils n'ont pas tous les 5. Chacun n'a pas la même vision de ce que doit être le rôle du Conseil de sécurité et du secrétaire général. Ça veut dire que certains le veulent pas trop fort, d'autres trouvent que ce serait bien qu'il soit fort. Hein, je veux dire, et je pense que plus vous êtes puissant, plus vous pensez qu'il ne doit pas être trop fort. C'est comme ça que l'histoire, en tous les cas, nous a enseigné que les Américains, par exemple, n'aiment pas les secrétaires généraux, qui sont les secrétaires généraux trop forts. Alors, maintenant, l'organisation a besoin de leadership. Et on dit assez couramment dans les couloirs de l'ONU, aujourd'hui, il nous faut un général et pas un secrétaire, ou quelqu'un qui soit plus un général qu'un secrétaire. Donc on va voir ce qui va sortir. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est de réfléchir de discuter de ce que devrait être sa mission principale. Mmh. Au fond, où est-ce qu'on l'attend? Où est-ce qu'on attend cette personnalité, femme ou homme? Et moi, je trouve qu'il y a 3 choses qui me paraissent aujourd'hui très importantes. Et je me suis beaucoup occupé quand même des Nations Unies. J'ai passé 11 ans là-bas. J'ai été 3 fois en poste là-bas. Et je trouve qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il faut voir le contexte actuel, ce que j'attendrai, moi, alors, du secrétaire général, c'est d'abord qu'il essaie de mieux faire travailler les 5 ensemble. Parce que le système ne fonctionne, n'est-ce pas, que si les 5 sont d'accord. Alors, il ne faut pas lui prêter une baguette magique.
Alors, les 5, on souviens, peut juste les rappeler pour nos auditeurs. Les 5, les États-Unis,
Chine,
France,
États-Unis, Chine, France,
Russie, il en manque
Royaume-Uni.
Royaume-Uni. Alors, il y a eu dans le passé un secrétaire général qui a agi pour ça, qui était Pérez de Cuellar. C'était à la fin de la guerre froide. Et Pérez de Cuellar, qui avait été ambassadeur du Pérou au Conseil de sécurité, savait, n'est-ce pas, qu'il fallait que les 5 travaillent ensemble. Mais il a poussé les 5 dans l'affaire Iran-Irak, à la sortie de la guerre, à négocier une résolution sur le cessez-le-feu. Donc ça, je trouve que c'est tout ce qui pourrait être fait pour que les 5 travaillent mieux ensemble serait très important. Deuxièmement, je crois qu'il y a maintenant les suites de la COP21. C'est quand même un dossier absolument majeur et ça a été un grand succès pour les Nations Unies. Succès pour la France, peut-être, qui a été à la présidence, mais un grand succès pour les Nations Unies, parce que le système a fonctionné. Et trouver un accord universel avec des intérêts aussi divergents entre les pays développés, les pays en développement, les pays émergents, c'était extrêmement difficile. Et donc, la mise en œuvre de la COP21, je trouve, est top on the agenda, comme disent les anglo-saxons. Je trouve par ailleurs, troisièmement, que nous avons le dossier humanitaire. Nous avons ces crises, n'est-ce pas, qui durent maintenant. Et je vous donne un exemple. La moyenne de durée d'un camp du HCR aujourd'hui, c'est 17 ans.
Ce qui est énorme.
17 ans, n'est-ce pas? Et donc, il y a des besoins de financement, il y a des besoins de gouvernance, et qui sont difficiles, parce qu'il faut faire travailler les agences des Nations Unies, les grandes ONG, les États, tout ça ensemble, c'est quelque chose de très très difficile. Et je trouve que là, c'est un dossier majeur. Et puis, il y a à faire beaucoup, continuer à travailler sur les forces de maintien de la paix, je trouve. Mais voilà ce que j'attends du secrétaire général.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors j'aimerais rebondir précisément sur votre point numéro 2 ou point numéro 1, je ne sais plus, c'était le point numéro 1, faire en sorte que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité travaillent ensemble. Est-ce que sur cet aspect-là, Alexandra Novoselov, on peut parler d'échec de Ban Ki-moon?
Je ne sais pas si on peut lui attribuer cet échec, ce serait un peu trop quand même. Mais je crois que c'est vrai qu'il a pas, il était trop dans la main de certains États, il n'a pas su être cette voix médiane, ou en tout cas, effectivement, comme avait fait Pérez del Cuellar, c'est-à-dire organiser une sorte de diplomatie secrète, ou discrète, je dirais plutôt, discrète, qui permet d'arrondir les angles et de faire en sorte que ces États s'entendent. Mais bon, lui attribuer cet échec, non. Quand même.
Alors j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Ban Ki-moon a été trop dans la main de certains États, si on voulait les nommer, ces États.
En fait, c'est à la fois le P5, mais plus généralement, je crois que quand on regarde les nominations qu'il a faites, ça a été bon. C'est d'abord à chaque fois de nommer des gens qui ont des fonctions, qui avaient des fonctions officielles dans les États, donc qui n'étaient pas forcément totalement indépendants, entre guillemets, de leurs États, de faire attention à une répartition à la fois géographique et puis aussi entre ce qu'on appelle en anglais Global North et Global South, c'est-à-dire les grands États du Nord et les grands États du Sud. Mais du coup, et puis il n'a pas forcément choisi des personnalités avec beaucoup de poids. Donc c'est ça qui est un peu que les gens lui reprochent aussi à l'intérieur du système. Pour prolonger ce qu'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, je crois qu'il y a un vrai besoin de pas de réorganiser, mais de mieux coordonner l'ensemble des agences du système des Nations Unies. On a vraiment l'impression au jour d'aujourd'hui que c'est tout le monde travaille en silo, chacun dans son petit domaine, et que la cohérence, la coordination ne sont pas là. Et ça, bien entendu, c'est le rôle du secrétaire général. Il est le chef de toutes ces agences en tant que chef du secrétariat des Nations Unies. Il doit avoir ce leadership vis-à-vis de toutes les agences pour assurer une cohérence du système, une vision globale aussi. Ça, c'est aussi ce qu'on lui reproche un peu. Il n'y a pas eu de vraie vision en dehors de... Il s'est impliqué sur un certain nombre de dossiers. Le climat en est un, mais il n'y avait pas de vision d'ensemble par rapport au système des Nations Unies.
Jean-Marc de la Sablière, très rapidement, pour terminer cette première partie d'émission.
Moi, je suis d'accord avec vous, dire, Alexandra. Mais je trouve, si vous voulez, je pense que la personnalité, la période actuelle, en tous les cas, doit être une personnalité qui sache rassembler. Il ne faut pas lui attribuer, effectivement, les 5 permanents. Chacun ne va pas adopter une position différente parce qu'on lui demande. Mais elle peut travailler pour essayer de rassembler, pour essayer de trouver des points d'accord, n'est-ce pas, aider à les trouver. Et il faut que ce soit une personne qui rassemble, une personne qui soit charismatique et qui ait une vision. Vous savez, on disait souvent, et moi, je connais bien Kofi Annan, et je trouve qu'il a... Quand on regarde les secrétaires généraux dans le passé, on dit il y a Dagom Arjol, qui était le général, bon, qui a eu d'ailleurs des problèmes, et les conditions de sa disparition, en fait, si vous voulez, tout ça a été bien sûr oublié, et qu'on retient le leadership et l'inventivité, les risques d'ailleurs qu'il a souvent pris, notamment dans l'affaire du Congo, par exemple. Et puis Kofi Annan. Alors Kofi Annan, il incarnait les Nations Unies, je trouve, beaucoup mieux que les autres, parce que il était crédible sur les 3 domaines qui sont la sécurité, qui sont le développement et les droits de l'homme.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Marc de la Sablière et Alexandra Novoselov dans quelques instants. À tout de suite.